Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour Nathalie Barge, pour vous présenter le monde aujourd'hui en compagnie de Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition matinale du 26 juin 2014, l'affaire du trafic présumé de bébés qui proviendrait du Nigeria continue de dominer l'actualité au Niger.
Nous, ça nous met mal à l'aise au plan international. Parce qu'aujourd'hui, tout bébé qui disparaît ailleurs, on peut dire que ce bébé-là a dû être vendu au Niger.
Mariama Moussa, présidente de SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales.
Les avocats de l'opposant togolais Jean-Pierre Fabre, sous contrôle judiciaire, vont demander un non-lieu dans l'affaire des incendies des marchés.
Il y a des forces obscures qui sont à l'œuvre pour violer le principe de la séparation des pouvoirs, qui est le bouclier de protection des citoyens.
Maître William Bourdon.
Premières assises du consommateur au Bénin, sous le signe de l'action.
Je voudrais nous demander aujourd'hui, à travers ces assises de 3 jours, de nous préparer à mieux nous organiser pour défendre nos droits.
Huguette Akplogandossa, leader de la société civile béninoise.
Ici aux États-Unis, John Boehner, le président de la Chambre des représentants, a annoncé vouloir attaquer en justice le président Barack Obama pour abus de pouvoir.
Et en football, aujourd'hui, le Ghana affronte le Portugal et l'Algérie joue contre la Russie. Donc le journal de la Coupe du Monde sera présenté par Nicolas Pinault, envoyé spécial de la Voix de l'Amérique au Brésil.
Et nous terminerons par la page musicale avec Roger Muntou, mais d'abord le journal.
La capitale du Nigeria, Abuja, a été de nouveau frappée hier par un attentat à la bombe qui a fait au moins 21 morts et 17 blessés. Des détails avec Michel Joseph.
La bombe a explosé dans un centre commercial bondé une heure avant le début du match Nigeria-Argentine. La forte déflagration a eu lieu près d'une des entrées de l'Emma Plaza, un centre commercial en plein centre d'Abuja. Mike O'Meary, un porte-parole du gouvernement, a déclaré qu'il s'agissait d'un attentat à la bombe. Le site, qui a été bouclé par la police et l'armée, offrait un spectacle de désolation avec des débris de voitures et des restes de corps éparpillés sur le sol. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais Boko Haram a mené 2 attaques meurtrières à Abuja. Le 14 avril, la gare routière de Nyanya, à la sortie de la ville, a été touchée par un attentat à la voiture piégée qui avait fait 75 morts. Un deuxième attentat à la bombe avait frappé la même gare de Nyanya le 1er mai, faisant au moins 19 morts. La capitale nigériane, qui abrite les ministères et les grands hôtels, est pourtant sous haute surveillance depuis l'attentat contre le siège des Nations Unies en août 2011.
En Côte d'Ivoire, le chef du Front populaire ivoirien, le parti de Laurent Gbagbo, a prévenu hier qu'un procès de l'ex-président ivoirien pour crime contre l'humanité serait une catastrophe judiciaire pour la Cour pénale internationale. Pascal Affine-Guessan s'est exprimé lors d'un point de presse à Abidjan. Des détails avec Félix Yepassis Zembrou.
Le président du FPI, Pascal Affine-Guessan, que cite l'AFP, a dénoncé une CPI hostile à l'ex-président, capable de construire une réalité fausse, contraire à la réalité historique, afin de justifier ses allégations. Après plusieurs années d'enquête et d'incarcération de l'ancien chef de l'État ivoirien à la haie, la chambre préliminaire de la CPI a confirmé le 12 juin 4 charges contre lui et l'a renvoyé en procès devant une chambre de première instance. Ce procès serait l'assurance d'une catastrophe judiciaire et de la perte de crédibilité des institutions de la CPI, a dit le chef du FPI. Premier ex-chef d'État poursuivi devant la CPI, Laurent Gbagbo, âgé de 69 ans, est accusé d'avoir ordonné, sollicité, encouragé ou contribué de toute autre manière à l'accomplissement de 4 crimes contre l'humanité, à savoir meurtre, viol, acte inhumain et persécution lors de la crise post-électorale de 2010-2011.
Le vote pour les législatives en Libye s'est achevé hier sur un taux de participation extrêmement faible. Des précisions avec Chérubin Dorcil.
Le dépouillement a commencé hier, juste après la fermeture des bureaux de vote. Un membre de la haute commission électorale a déclaré à l'AFP que les premiers résultats devraient être annoncés à partir de demain ou samedi. Sur 1,5 million d'électeurs inscrits, seuls quelques 400 000 ont voté, soit un taux de participation de moins de 27%. Le scrutin a été marqué par des violences à Benghazi, dans l'Est, où 3 soldats ont été tués dans des combats avec des islamistes. Les Libyens étaient appelés à élire les 200 membres de la future chambre qui doit remplacer le Congrès général national, élu en juillet 2012 et dont la légitimité est contestée. Il est en effet accusé d'avoir contribué à l'instabilité. Le Congrès général national est par ailleurs miné par des luttes d'influence entre des blocs libéraux et des islamistes appuyés par des milices armées.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a félicité Madagascar, qui célèbre sa première fête de l'indépendance depuis l'élection de l'an dernier, qui a remis le pays sur les rails de la démocratie. S'exprimant au nom du président Obama et du peuple américain, M. Kerry a encouragé les nouveaux dirigeants de Madagascar à gouverner dans la transparence et le respect des droits de l'homme. Les élections ont eu lieu l'an dernier après 4 années de tourmente politique suite à un coup d'État et un gouvernement non reconnu par l'Union africaine. Les États-Unis et d'autres pays avaient alors suspendu l'aide à Madagascar.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Premier ministre irakien Nouri al-Maliki a rejeté la formation d'un gouvernement d'urgence pour aider le pays à lutter contre la progression militaire des islamistes sunnites. M. Maliki a déclaré mercredi, lors d'une allocution télévisée, qu'une telle mesure irait à l'encontre de la constitution du pays et des résultats des élections législatives du 30 avril dernier. Lors d'une réunion de l'OTAN à Bruxelles, le secrétaire d'État américain John Kerry a déclaré devant la presse que les États-Unis sont intéressés par qui dirige l'Irak, mais ne s'immiscent pas dans la formation d'un nouveau gouvernement à Bagdad. C'est aux Irakiens de prendre ces décisions. Nous avons dit clairement que nous avons un intérêt dans un gouvernement qui peut unir les Irakiens, a souligné John Kerry.
Au Liban, un homme qui avait apparemment l'intention de commettre un attentat suicide s'est fait exploser dans un hôtel de Beyrouth mercredi soir, alors que les forces de sécurité libanaises l'approchaient. Un second suspect a été arrêté et 10 personnes ont été blessées. L'incident s'est produit alors que les forces de sécurité faisaient des descentes dans l'hôtel Ducroix. C'est la 3e explosion au Liban en moins d'une semaine.
L'administration Obama dit s'apprêter à imposer de nouvelles sanctions à la Russie si Moscou ne parvient pas à prendre des mesures pour désamorcer la crise en Ukraine. La Maison-Blanche a cependant précisé avoir retardé la mise en œuvre dans l'attente d'un accord entre les entreprises européennes et américaines. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, a dit mercredi que les nouvelles sanctions cibleront les secteurs de la banque, de l'énergie et de la défense de la Russie si Moscou ne parvient pas à endiguer le flux transfrontalier de matériel militaire et de combattants en Ukraine. La menace de nouvelles sanctions intervient alors que des chefs d'entreprise américaines ont lancé une campagne contre les sanctions unilatérales, affirmant qu'elles nuiront aux intérêts américains et causeront des pertes d'emplois. Les dirigeants européens ont également exprimé leurs préoccupations sur de nouvelles sanctions.
Ici à Washington, John Boehner, le président républicain de la Chambre des représentants, a annoncé hier qu'il intenterait une action en justice contre le président Barack Obama pour abus de pouvoir. Henri Francisque.
La Constitution dit clairement que le travail du président, c'est d'appliquer fidèlement les lois, a expliqué hier John Boehner, ajoutant que le président Obama a failli à la règle. M. Boehner reproche au chef de l'exécutif une série de décrets qui, selon lui, outrepassent ses pouvoirs réglementaires, notamment la régularisation temporaire de certains jeunes sans papier en 2012. Confronté à un Congrès paralysé par des divisions, le président Obama a choisi d'agir par décret, par exemple pour augmenter le salaire minimum pour les contractuels de l'État fédéral. Tout récemment, des républicains ont également fustigé l'échange de 5 prisonniers talibans contre soldats américains en Afghanistan, en soulignant que le Congrès n'avait pas été informé au préalable comme prévu par la loi. L'annonce de cette plainte est perçue comme une manœuvre politique à quelques mois des législatives américaines. Pour Nancy Pelosi, chef de la minorité démocrate de la Chambre, c'est un subterfuge. Madame Pelosi a même ajouté, sur un ton de raillerie, qu'il faut vraiment qu'un adulte prenne en charge le groupe républicain.
Vous écoutez l'émission matinale de La Voix de l'Amérique, Le Monde aujourd'hui, Nathalie Barge en direct du Studio 13 à Washington. L'affaire du trafic présumé de bébés qui proviendrait du Nigeria continue de dominer l'actualité au Niger. Plusieurs personnes ont été interpellées, y compris les épouses de certaines personnalités, notamment celle du président de l'Assemblée nationale et du ministre de l'Agriculture. Pour une réaction à cette affaire, Timothée Donangmaï a joint à Niamey Mariama Moussa, présidente de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales.
Les concernés ont été interpellés au niveau de la police judiciaire. Ils ont été écoutés. Maintenant, je crois que l'affaire a même atterri entre les mains de la justice. Mais ce qui est sûr, l'État mettra des moyens pour pouvoir bien investiguer. Parce que depuis tout ce temps-là, on ne marchait que sur la base de rumeurs. Et moi, à la date d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que réellement, ces enfants-là sont des enfants qui ont été achetés. Seul le test ADN peut nous dire si ce sont des enfants achetés ou bien des enfants qui ont été mis au monde par leurs propres parents.
Bien évidemment, les personnes interpellées dans le cadre de cette affaire sont présumées innocentes jusqu'à preuve du contraire. Quelle est votre réaction par rapport au rôle de la justice dans cette affaire?
Bon, la justice doit vraiment jouer un rôle important à ce niveau parce que nous voulons qu'il y ait vraiment une certaine vérité autour de cette affaire-là. Et je pense que la vérité verra le jour d'ici peu, puisque à l'allure où vont les choses, la justice ira jusqu'au bout. Les enquêtes sont en train d'être menées. S'il y a d'autres personnes, elles n'ont qu'à se faire dénoncer. Moi, je crois que ce n'est pas une honte.
Des femmes de haute personnalité figurent parmi les personnes interpellées dans le cadre de cette affaire. Quelle est votre réaction à cela?
Je suis frustrée, je suis choquée et en même temps frustrée. Parce que je n'avais jamais pensé que ces femmes-là allaient être sur la liste noire, si on peut le dire entre guillemets, parce que là, il s'agit d'une liste noire. Aujourd'hui, on ne parle que du Niger. Nous, ça nous met mal à l'aise au plan international. Parce qu'aujourd'hui, tout bébé qui disparaît ailleurs, on peut dire que ce bébé-là a dû être vendu au Niger. Mais ça ne m'étonne pas. À partir du moment où, tout récemment, il n'y a même pas trois mois de cela, un bébé a été volé dans une maternité de référence de la capitale. Imaginez, on peut dire que tout est possible.
Mariama Moussa, présidente de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales, était jointe à Niamey, au Niger.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Au Togo, depuis la commémoration du premier anniversaire des incendies des marchés à Lomé et à Kara en janvier dernier, l'opinion tend à oublier l'affaire qui est pendante devant la justice. Hier, les avocats du chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre ont animé une conférence de presse dans un hôtel de la capitale togolaise. Notre correspondante Kay Lawson était sur place.
Depuis son inculpation dans l'affaire des incendies des marchés de Lomé et de Kara, Jean-Pierre Fabre, le président de l'Alliance nationale pour le changement, n'a cessé de clamer son innocence. 18 mois après la survenue de ces incendies, le dossier traîne devant la justice togolaise, ce qui a amené le leader de l'ANC à faire appel à des avocats européens pour démontrer l'ivraie de son inculpation. Maître William Bourdon, avocat au barreau de Paris, conseil de Jean-Pierre Fabre.
Il y a des forces obscures qui sont à l'œuvre pour violer le principe de la séparation des pouvoirs, qui est le bouclier de protection des citoyens. Ces forces obscures qui peuvent être tentées parfois de manipuler le droit et l'autorité judiciaire pour des ambitions qui n'ont rien à voir avec celles de leur recherche de la vérité ou des responsabilités. Ce dossier ne repose que sur une construction imaginaire, que sur des on-dit, sans éléments matériels, sans éléments factuels, et que toutes les déclarations de l'ensemble des inculpés ne sont qu'un seul et unique et inlassable cri d'innocence.
Convaincu de l'innocence de Jean-Pierre Fabre, le Collège des avocats va dans les prochains jours demander un non-lieu. Georges-Henri Bautier, avocat au barreau de Bruxelles.
Nous allons préparer la sortie de Jean-Pierre Fabre de ce dossier parce que nous voulons un non-lieu très rapidement. Donc nous voulons que les autorités judiciaires, en qui on a confiance, nous sommes en terrain où les choses peuvent se passer équitablement. Mais si c'est équitable jusqu'au bout, il faudra que Jean-Pierre Fabre sorte très vite de ce dossier parce qu'il n'a rien à y faire.
Suite à son inculpation dans cette affaire, Jean-Pierre Fabre est sous contrôle judiciaire. Une situation très pesante, doublée de son statut de député, affirme Jean-Pierre Fabre qui souhaite un rapide dénouement.
Quand vous devenez député, vous êtes moins libre que le citoyen ordinaire. Le président de l'Assemblée nationale doit vous donner une autorisation si le week-end vous avez envie d'aller voir un parent de l'autre côté de la frontière. Ça, c'est un. Ensuite, je suis sous contrôle judiciaire. J'ai besoin d'avoir l'autorisation du juge. C'est trop pour moi seul. Et donc, je supporte ça très mal. C'est un dossier dans lequel se trouvent Jean-Pierre Fabre et plusieurs collègues de l'opposition. Il faut que cette situation-là cesse pour nous tous.
Alors, croyez-vous que ce dossier peut vous éloigner de la présidentielle 2015?
J'ai la peau très dure. Et ceux qui échafaudent des plans, ils vont être très déçus.
Une dizaine de personnalités issues du collectif Sauvons le Togo, un regroupement de partis politiques et d'associations de défense des droits de l'homme, sont inculpées dans le cadre de cette affaire. Kay Lawson, Lomé, pour La Voix de l'Amérique.
D'autre part, selon notre correspondante, le collectif Sauvons le Togo organise une manifestation ce jeudi et les jeunes acquis à la cause du parti au pouvoir qui voulaient également marcher dans la capitale togolaise aujourd'hui ont reporté leur manifestation à samedi.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
Au Bénin, les assises nationales des consommateurs organisées par le CNAC, le Conseil national des associations de consommateurs, permettent à de nombreux adhérents et autres participants de réfléchir pendant 3 jours aux moyens qui leur permettront de mieux défendre leurs droits. Voici le reportage de Peggy Ludovic Dagba de Cotonou.
Les toutes premières assises nationales du consommateur se tiennent effectivement à Cotonou depuis ce 25 juin sous le thème « Le consumérisme au service du développement ». Les nombreux problèmes qui empoisonnent la vie aux consommateurs offrent le prétexte aux participants venus des quatre coins du Bénin pour réfléchir aux possibles solutions devant mettre fin à leur calvaire. Le président du comité d'organisation lève ici un coup de voile et sur ces problèmes aussi divers que variés. Robin Akromessi.
Au Bénin, plus de 40% de la population est victime de l'analphabétisme. Mais plus de 80% ignorent leurs droits et s'intéressent peu à la protection de ces droits et de leurs intérêts en tant que citoyens consommateurs. Il n'est plus un secret pour personne que la qualité des services et des biens en général est assez discutable au Bénin. Les coûts auxquels ils nous sont offerts sont de nature à accroître l'inflation et donc la paupérisation des citoyens consommateurs.
La protection du droit du consommateur est pourtant prévue par des lois de la République. Docteur Emmanuel Sédégan, chercheur enseignant à l'Université d'Abomey-Calavi, qui salue par ailleurs le courage des initiateurs de ces assises.
C'est la loi 2007-21 du 16 octobre 2007 qui donne droit à la protection du consommateur. Mais entre le texte qui est écrit et les faits qu'on vit chaque jour, l'écart est très grand. Si le Bénin et même l'Afrique pouvaient marcher par les lois, ça fait longtemps qu'on est super développé, n'est-ce pas? Mais il faut donc des gens, des courageux comme vous, qui rappellent à l'ordre, qui ne sont pas fatigués de se répéter chaque jour.
L'indolence et la passivité qui empêchent le consommateur béninois d'agir pour réclamer ses droits doivent s'estomper, dira Huguette Akplogandosa, leader de la société civile, aux participants.
Je voudrais nous demander aujourd'hui, à travers ces assises de 3 jours, de nous préparer à mieux nous organiser pour défendre nos droits. Ces droits qui nous sont conférés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, par le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui nous oblige en tant que citoyens, en tant que consommateurs à pouvoir lever la voix et cesser de rester dans ce silence coupable pour porter haut la voix des sans-voix.
Les représentants des pouvoirs publics ont choisi de se tenir loin de l'ouverture de ces assises. Peggy Ludovic Dagbar, Cotonou, pour La Voix de l'Amérique.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, il y a un an, l'ONU intervenait au Mali. Quel bilan pour la MINUSMA? Au programme également, le nécessaire suivi de la Coupe du Monde au Brésil. Rendez-vous donc avec nos invités ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique à Washington. On retrouve tout de suite le journal de la Coupe du Monde au Brésil, présenté par Nicolas Pino, l'envoyé spécial de La Voix de l'Amérique à Brasilia.
Bonjour à tous, nouveau numéro de ce journal de la Coupe du Monde au Brésil. L'Afrique retrouve le sourire puisque le continent aura au moins un représentant en huitième de finale, le Nigeria. Le sourire est nigérian ce matin puisque malgré leur défaite 3-2 face à l'Argentine, les Super Eagles se réussissent là où les Camerounais et les Ivoiriens ont échoué, sortir de la phase de poule. Moussa a répondu deux fois à Lionel Messi, mais c'est bien l'Argentine qui a inscrit un troisième but victorieux. Les Nigérians se qualifient puisque dans l'autre rencontre de ce groupe F, la Bosnie-Herzégovine a battu 3-1 l'Iran. Voici à présent le coup de sifflet de notre consultant Jules Valentin Gouet. Il revient sur cette qualification des Super Eagles. We celebrate the best African
football. Bonjour. Le Nigeria confirme par une qualification logique en huitième de finale son ascension irrésistible vers le sommet de la hiérarchie africaine de l'heure. Vainqueur de la CAN senior, puis de la Coupe du Monde chez les jeunes, le champion d'Afrique en titre remplit son contrat sans tambour ni trompette. Sa production consistante dans le dernier match de poule contre l'Argentine de Lionel Messi augure d'un futur immédiat prometteur dans la compétition. Les Super Eagles ont présenté une équipe équilibrée sur toutes les lignes, physiquement fraîche, régulière dans l'effort et passant avec bonheur des phases défensives aux phases offensives grâce à un collectif homogène d'une grande vivacité qui a su intégrer parfaitement les valeurs individuelles dont les plus visibles sont la muraille Enyama dans les buts et les feux follets de l'attaque Moussa, Emenike et Odemwinge, très complémentaires dans leur jeu. En s'adaptant et en répliquant au rythme infernal parfois proposé par les vedettes argentines, les Nigérians montrent qu'ils sont prêts à relever n'importe quel défi. Leur adversaire du match des huitièmes de finale est donc averti. À demain.
Le Nigeria affrontera en huitièmes de finale la France puisque les Bleus terminent premier du groupe E. La France compte 7 points après avoir concédé le match nul 0-0 hier devant l'Équateur qui a fini la rencontre à 10. Après leur victoire 3-0 face au Honduras, les Suisses sont deuxième et affronteront l'Argentine en huitième de finale. Le groupe G, le groupe de la vie, est un perdu-gagnant. Les États-Unis, Grande Portugal, y a sempre temida Allemagne. La Coupe du Monde à l'honneur sur la voie de l'Amérique. Les deux dernières équipes africaines vont-elles réussir à se qualifier pour la suite du tournoi ? Situation très différente pour le Ghana et l'Algérie. Les Black Stars n'ont pas leur destin entre les mains. Il leur faut d'abord battre impérativement le Portugal. Et Kwesi Appiah, le sélectionneur ghanéen, a rappelé hier que le Portugal de Cristiano Ronaldo n'était pas faible malgré son mauvais début de tournoi. A noter aussi que les Ghanéens joueront libérés puisque le problème des primes a été réglé hier. Le président ghanéen a affrété spécialement un avion depuis Accra pour leur envoyer les 3 millions de dollars à se partager en liquide. En tout cas, ce Ghana-Portugal sera un beau match, comme nous l'affirme notre correspondant Élisée Ongpatine depuis Boïkon au Bénin.
Je pense que les Ghanéens n'ont plus rien à faire, surtout qu'ils n'ont plus le destin en main. Mais ils vont essayer quand même de faire un match, un grand match face au Portugal qui a aussi besoin de victoires, histoire de bien terminer cette compétition. Les Ghanéens avec une équipe collective qui a beaucoup d'engagement puisque nous les avons vus face aux Allemands où ils ont tenu tête haute à ces Allemands physiquement, tactiquement, avec beaucoup d'agressivité. Et s'il faut battre le Portugal, Kwesi Appiah, le sélectionneur ghanéen, doit reprendre ce même schéma, histoire de déranger énormément ces Portugais, avec à leur tête Cristiano Ronaldo, qui n'est pas visiblement au mieux de sa forme. C'est vraiment le seul blessé avec son club, le Real Madrid. Maintenant, le plus important, c'est d'être réaliste parce que face à l'Allemagne, nous avons vu que ses attaquants n'ont pas été réalistes. Cette fois, il faut tout faire pour être réaliste, marquer à moindre occasion. Et là, nous pensons que les Ghanéens peuvent remporter les 3 points.
Pour minha patria amada, idolatra, non salve a nossa nação. Et à travers dessa canção, hoje posso fazer minha déclaration.
Dans l'autre rencontre de ce groupe G, Allemands et Américains pourraient se contenter d'un match nul qui qualifierait les deux équipes. Mais les deux équipes ont pratiqué un beau jeu jusque-là et ne devraient pas s'en contenter. Enfin, dans le groupe H, tout peut arriver. L'Algérie, comme la Côte d'Ivoire et le Nigeria avant elle, doit gagner pour être sûr de se qualifier. Les Fenech affronteront la Russie ce jeudi. Pour le journaliste algérien Ibrahim Taharout du journal L'Express, l'équipe algérienne est bien en attaque, mais a trop de lacunes dans sa défense.
Il y a eu comme une déception lors du premier match, mais subitement l'espoir est revenu. Les Algériens maintenant y croient avec cette prestation face à la Corée. C'était un déluge de buts, mais nous avons toujours une petite appréhension par rapport à notre défense qui reste perméable. Mais bon, nous avons une attaque assez percutante, donc nous y croyons effectivement. Pour nous, nous sommes aux portes de l'exploit.
Lors de ce match contre la Corée, à la mi-temps, c'était 3-0 et à la reprise, on a senti un peu que les Fenech avaient relâché un peu.
Oui, ils ont baissé le pied parce que c'était un match plein et c'est normal. Il y a eu un repli vers un léger relâchement. Et puis à 3-0, c'est tout à fait normal que les joueurs ont essayé de respirer un petit peu. Et comme je vous l'ai dit, nous avons un problème en défense. C'est un sérieux problème. Il est très perméable. Et vous avez vu, on a encaissé deux buts un peu pas très. C'était pas des actions vraiment très très dangereuses. Mais bon, la perméabilité de cette défense. Donc, il y a aussi la fraîcheur physique qui manque à nos joueurs. C'est la déclaration de l'un des principaux joueurs, le numéro 10, Farouli, qui a bien dit bien avant la Coupe du Monde que sur le plan physique, nous sommes un petit peu fatigués. Effectivement, il y a un relâchement physique.
Ibrahim Taharout, notre confrère algérien. A noter que la Belgique, déjà qualifiée, jouera face à la Corée du Sud. Enfin, deux informations en marge de cette Coupe du Monde avant de se quitter. Tout d'abord, à Yaoundé, l'humiliante débandade des Lions indomptables n'a pas plu du tout. Paul Biya, le président camerounais, a ordonné à son premier ministre de mener des investigations sur la mauvaise prestation de l'équipe nationale. Le chef du gouvernement a un mois pour lui remettre le résultat de son enquête, c'est ce qu'indique la présidence camerounaise dans un communiqué. Enfin, l'entraîneur du Japon, l'italien Alberto Zaccheroni, a annoncé sa démission après l'élimination de son équipe au premier tour du mondial. Les Japonais ont regagné leur patrie, tout comme la Côte d'Ivoire, dans le groupe C. Voilà, c'est tout pour ce journal de la Coupe du Monde, préparé par Bagas Sikoura et Nicolas Pineau. Nathalie et tous les fidèles de La Voix de l'Amérique, je vous donne rendez-vous sur le site spécial voabrésil2014.com à ce soir pour un nouveau point sur la Coupe du Monde.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. À présent, une page musicale avec Roger Muntou. Bonjour Roger.
Bonjour Nathalie. C'était hier le 5e anniversaire de la mort de Michael Jackson. Il est reconnu par le livre Guinness de records comme étant l'artiste le plus couronné de succès de tous les temps. Selon le Rock and Roll Hall of Fame, il a été identifié comme étant l'artiste le plus populaire de toute l'histoire de l'industrie du spectacle. Les fans de Jackson se souviennent de lui dans Thriller.
It's close to midnight. Something evil's lurking in the dark. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream, but terror takes the sound before you make it. You start to freeze as horror looks you right between the eyes.
Alors Michael Jackson, hein, surnommé le roi de la pop, a battu nombre de records de l'industrie du disque, hein, n'est-ce pas ? Au total, ses ventes s'élèvent à environ 1 milliard d'exemplaires. C'est phénoménal, Roger.
C'est ça, Nathalie, d'ailleurs, c'est ce qui le classe parmi les trois plus gros vendeurs des disques de tous les temps, avec les Beatles et Elvis Presley. Michael Jackson meurt le 25 juin 2009 par homicide accidentel lié à une overdose de médicaments. Le 7 novembre 2011, à l'issue d'un procès de 9 semaines, le docteur Conrad Murray, son médecin personnel, est reconnu coupable d'homicide involontaire par la Cour supérieure de Los Angeles.
Michael Jackson, Thriller. Merci Roger.
De rien Nathalie, un grand coucou à Richard Seke à Pretoria en Afrique du Sud.
Vous retrouverez donc Roger Muntou dans le RM Show à 20h, temps universel.